On parle des enfants, est-ce que cette méthode est applicable, en tout cas sur le papier, aux adultes, ou c'est quelque chose qui doit être fait vraiment tout petit ?
Au départ, quand on a lancé ce projet, c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années. Et à l'époque, on parlait assez peu de ce plaisir alimentaire. On était vraiment dans une logique restrictive de calories, de vitamines, etc. Et ce qui nous a aussi donné l'intuition de départ, enfin, ça a contribué. On a regardé aussi les gens qui souffraient de problèmes, de troubles du comportement alimentaire. Et on s'est rendu compte qu'une des approches thérapeutiques qui permettait à des personnes qui souffraient de troubles finalement de s'en sortir, puis de retrouver un rapport paisible avec l'alimentation, c'était une attention sensorielle plus grande aux aliments. Donc ça, c'est des outils qui sont utilisés aujourd'hui en thérapeutique. Donc j'imagine que pour toute la population, enfin, j'en suis persuadée, c'est une possibilité aussi de redonner à l'alimentation une place plus sereine dans son quotidien.
Alors, revenons justement sur l'aspect multisensoriel des cinq sens.
Les cinq sens sont les portes d'entrée que l'on a sur le monde, nous les êtres humains. C'est comme ça qu'on entre en contact avec ce qui nous entoure, et en particulier avec le monde alimentaire. Et dans l'acte de manger, dans l'acte alimentaire, on sollicite cinq sens, tous nos sens. On va utiliser la vue, c'est très important, on va utiliser le toucher et le goût. Et cette attention au monde alimentaire nous permet déjà de faire un pas vers des choses que peut-être on ne connaît pas. Et auprès des enfants, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que l'enfant, même s'il n'aime pas, au bout d'un moment, il goûte et puis il explique pourquoi il aime ou il n'aime pas. Et en fin de compte, parfois, il apprivoise, certes, on voit très bien aussi ce processus où l'enfant apprivoise des choses qu'il n'aimait pas a priori, parce que simplement, il met des mots, où il justifie pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on peut ne pas aimer une soupe à la courge quand elle n'est pas salée, mais dès qu'on lui rajoute un peu de sel, quelques épices, et tout d'un coup, ce produit, cette soupe qu'on n'aimait pas a priori, on va l'aimer. Et c'est cette démarche qu'on voit très fortement chez ces enfants, c'est que l'a priori de départ, de dire « j'aime pas », l'enfant va dire « ce que j'aime pas dans cette soupe à la courge, c'est que ça manque de goût, donc je vais peut-être lui rajouter du sel ou du curry parce que ça va me permettre de lui donner cette ampleur sensorielle qui lui manque ». Et c'est vraiment dans l'expérience qu'on remarque auprès de ces enfants qui sont pourtant assez jeunes.
C'est aussi la fameuse soupe avec les morceaux, on n'aime pas parce qu'il y a des morceaux, alors que si on la passe, elle passe.
Mais tout à fait, et on voit très bien que si pour certains il faut la passer pour qu'elle passe, chez d'autres enfants, c'est le contraire. En fait, c'est les morceaux et c'est la soupe avec les morceaux que les enfants apprécient. Donc, c'est pas de la sensorialité permet de mettre des mots sur ce que l'on ressent et de mieux se comprendre, mieux se connaître, et permet ensuite de s'approprier le monde alimentaire pour l'amener vers des préférences. Donc je dirais qu'il y a deux niveaux dans la préférence alimentaire. Il y a la capacité à transformer un aliment de base en quelque chose qu'on aime, et puis il y a aussi, chez l'enfant en tout cas, la nécessité de construire ses préférences alimentaires. Parce que si le plaisir reste au cœur de l'acte, au cœur de notre alimentation, c'est déjà gagné. Et c'est pour ça qu'il faut amener l'enfant à avoir du plaisir à manger des légumes, à manger des salades, etc.